Allô?
Oui, Gilles,
Oui, oui,
bonsoir.
oui.
Bah écoute, déjà merci de d'accorder ton temps pour Emix Voice Racing.
Avec
Et
plaisir.
bah si on une manière d'un peu de rentrer dans le dans tout de suite dans le sujet. On a vu ces derniers mois une sorte de revival en ce qui concerne motocross marketing, d'une manière tout à fait cordiale et passionnée. Mais pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui n'ont pas eu la chance de vivre cette fabuleuse époque, est-ce que tu peux un peu nous raconter la genèse de motocross marketing?
Ah ouais, comme ça en quelques mots, ça va être dur.
Ah, tu as le
Non, mais
temps,
si tu
hein?
veux, j'avais avec mon frère Thierry un petit magasin de moto, parce que lui pratiquait le motocross. On avait un petit magasin de moto exclusif, moto tout terrain, donc on vendait que du trial, du cross, de l'enduro. Et puis Thierry courait tous les dimanches, moi je faisais la mécanique, etc. On était sur les circuits tous les dimanches. Donc dans le cross jusqu'au cou. Et puis voilà, on cherchait des accessoires pour équiper nos motos, notamment là à l'époque qui roulait sur une 250 Montesa de cross. Et
Ouais.
c'était les champions de l'époque qui nous faisaient rêver, les Joël Robert, tous ces gars-là, avec les Suzuki d'usine, etc., qu'on croisait sur les cross inter, etc. Et puis voilà quoi. Donc on vendait nos motos comme ça tranquillement dans un petit magasin. Et puis à force de chercher des accessoires introuvables pour notre propre utilisation, on finissait par en trouver comme ça un peu sur les circuits. On achetait à des crossman inter étrangers, allemands ou anglais, etc. Et quelques accessoires, quelques bricoles et tout ça. Et puis on a commencé en fait le vrai début, c'était les garde-boues Falk, qui étaient les premiers garde-boues plastiques incassables, qui étaient des garde-boues allemands et qui étaient fabriqués en Allemagne et qui étaient au départ uniquement de couleur translucide, comme ça blanc blanc translucide. Et c'était vraiment exactement la couleur des garde-boues justement de ces Suzuki d'usine dont je te parlais. De Coster, de tous ces gars-là, quoi. Et donc on a commencé à acheter quelques garde-boues dans le coffre d'un Crossman Inter sur un circuit. On a acheté 3, 5, 10. Après, on en vendait un petit peu au magasin et tous les copains nous en demandaient, etc. C'est parti comme ça. Et puis
C'est là
quelques années
où s'est
après,
faite la connexion avec les
bah, c'est
pilotes stars,
vraiment
quoi.
le côté distribution, vente d'accessoires et d'équipements comme ça. En gros, ouais, le grand départ, c'était le garde-boue, quoi. C'est marrant, hein, parce que c'est parti de rien. Et puis quelques années après, on en vendait des semi-remorques entiers, quoi. Parce qu'à l'époque, il y avait une énorme demande parce que les garde-boues d'origine étaient moches ou fragiles, etc. Et donc aujourd'hui ça serait plus possible puisque maintenant toutes les motos sortent avec des garde-boues plastiques magnifiques et très costauds et tout ça. Mais donc à l'époque voilà, on est parti sur le garde-boue et puis de fil en aiguille, bah c'était un voilà, après c'était des accessoires, un peu d'équipement, un peu de machin, un peu de trucs et puis voilà quoi.
Il y avait peut-être aussi une plus grande facilité à aborder les stars à cette époque-là qu'aujourd'hui ou non?
Bon, je sais pas, peut-être, mais ce qu'il faut dire, c'est que mon frère Thierry, qui était mon frère aîné, avait déjà fait plusieurs séjours en Angleterre, il parlait déjà pas mal anglais. Sa bible, c'était Motorcycle News, qui était un canard anglais, un hebdomadaire, et il la dévorait de la première à la dernière ligne toutes les semaines. Et donc, en fait, grâce à ça, c'est vrai qu'on a pu vite acheter des produits, par exemple, en Angleterre, téléphoner à des gens, ou y aller à l'occasion d'un cross inter qu'on allait faire là-bas. Hop, on allait voir deux, trois fournisseurs, et on négociait, on achetait des produits, etc. On en ramenait dans le coffre, et puis après, etc., etc., quoi. Mais ça s'est un peu fait comme ça, mais on est parti de rien, hein, de zéro. On est parti vraiment sans du tout imaginer que quelques années après, ça serait une grosse boîte. Hein.
Oui, c'est quelques produits phares avec
Ah, si tu veux, c'est la passion qui nous a, c'est vraiment la passion qui nous a guidés. Bon, c'est vrai qu'on bossait jour et nuit comme des débiles, on se prenait rien comme salaire, on réinvestissait tout systématiquement dans les stocks, on rachetait des produits, parce qu'on en manquait en permanence. Donc voilà, c'était notre vie à l'époque. On était à bloc, quoi, à bloc là-dessus, à bloc passionné, sur les circuits tous les dimanches. Donc nous, on vivait ça 24 heures sur 24, quoi. Toute l'année, quoi. Et on était dedans jusqu'au cou. Après, les contacts avec les pilotes, ça s'est fait un peu aussi grâce aux fournisseurs, parce que quand on a commencé à importer des produits comme Sinisalo ou Happy Time, qui étaient des combinaisons de trial à l'époque, portées par des grands champions, il y avait Lesterinon, des grands champions de trial qui portaient ça. Et donc, du coup, ces fournisseurs comme Sinisalo ou Happy Time, ces deux exemples, hein. Nous avaient eux déjà quelques pilotes sous contrat, etc. Et donc, du coup, ça nous a facilité un peu la tâche. On a rencontré ces gars-là à plusieurs reprises, etc. Et après, on leur a fait des maillots, ils ont porté nos maillots. Et puis voilà. Et puis après, on était quand même très présents sur tous les circuits, tout le temps. Très, très, voilà, quoi. On a aidé énormément de jeunes à commencer en les équipant, tu vois. Donc on n'a pas, comment dire, sponsoré entre guillemets que les grands champions, hein.
Parce que on l'a peut-être un peu oublié aussi, c'est que tu viens, t'as évolué dans le trial, l'enduro et le motocross. Donc
Ah,
t'as
moi
et ça, ça.
je touchais un petit peu à tout, trial motocross, trial enduro, quand je bossais donc à motocross pratique, on était pris vraiment à bloc tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, c'est le motocross au départ qui nous a mis le pied là-dedans. Mes parents ont construit une maison à côté d'un terrain de motocross, et voilà, pas de chance pour eux, mais donc c'est ça qui nous a mis le déclic. On était tout petit, tout gamin, quoi. Et donc du coup, effectivement, moi je bossais beaucoup. Moi je roulais vraiment en amateur, hein. Je me régalais, mais je roulais en amateur. Même si je faisais championnat de France de trial, après celui d'enduro, j'avais même fait quelques grands prix trial, mais c'était toujours pour me marrer, quoi. Et en fait, et au bout d'un moment, après avoir tâté un peu le championnat de France d'enduro, je me régalais bien de découvrir les spéciales comme ça, et le terrain en roulant. Et c'est là que j'étais attiré par l'Afrique, et je me suis engagé à mon premier rallye africain en 1980.
C'est
Et
là
en
que c'est
prix.
fait là où
Voilà,
t'as commencé dans les rallyes moto.
voilà, c'est mon premier rallye africain. Je suis parti comme un poireau, privé, total. Avec un pote à moi, Richard Régnier, qui je suis toujours très pote avec, qui a fait aussi après d'autres rallyes, etc. avec moi. Mais on s'est engagés tous les deux comme ça, la fleur au fusil, avec notre argent, en se disant, bon, allez, on va se faire ça. Et puis voilà, c'est la première fois qu'on mettait les pieds en Afrique. On n'avait jamais mis les pieds en Afrique. Et donc là, ça a été une découverte énorme, parce que moi, sur ce rallye, je termine troisième. Je me souviens de que j'avais une 175 Kawa KDX que j'avais acheté chez Pierre Karsmakers en Hollande, de cette moto qui n'était pas importée. Donc en fait, en plus, voilà, on cherchait toujours les trucs introuvables, pas importés, même au niveau
Une
des motos, quoi.
175, c'est
175
aujourd'hui,
KDX,
alors
c'était les premières motos, c'était un deux temps, et c'était les premières motos Kawa Unitrack avec la suspension monoshock derrière.
Non, c'est que on a vu, il y a eu une époque où il y a eu des grosses cylindrées en moto, et puis là on est revenu aux 450. Alors parler d'une 175, c'est un peu, ça devait être très
Ah,
spécial quand même.
ouais, surtout en rallye raid, hein, surtout en rallye raid. Mais c'est parce que moi j'avais cette moto-là pour faire de l'enduro ici, donc je me suis dit, bon, tiens, je vais aller faire le rallye de Tunisie sans chercher plus loin, en me disant, bah, attends, je vais pas racheter de moto, de toute façon, j'avais pas les sous. Et puis j'ai dit, bah, ça ira très bien cette moto-là. Et puis en fait, je l'ai fait mouliner, avionner comme un débile. Et puis, Et puis voilà, bon, c'est sûr qu'après, je suis parti avec des motos plus grosses, mais disons que voilà, ce premier rallye de Tunisie en 1980, c'était pour moi vraiment un déclic, quoi. J'ai découvert l'Afrique et roulé sur des grandes étendues à bloc, comme ça, en découvrant le terrain en même temps avec un roadbook. Oh, j'ai trouvé ça mais trop génial, quoi. Ça m'a fait kiffer complètement. Et puis c'est parti comme ça, quoi. Après, j'ai refait quelques rallyes, toujours en privé, en payant mes trucs et tout ça, avec des motos un peu plus performantes et tout. Après, j'ai gagné le rallye Tunisie en 84 avec une 400 Husky refroidissement liquide là, que m'avait prêté Sora, un portateur.
Oui, alors justement, comment se fait ensuite, comment on fait la connexion avec des usines ou des grosses marques, quoi, en
Bah,
rallye? On se fait connaître petit
c'est
à
sur les
petit?
courses, quoi. C'est sur les courses. En fait, sur les courses, ben, tu rencontres les gens, tu vois les gros teams et tout ça. À l'époque, il y avait quand même beaucoup de motos. Il y avait beaucoup d'usines, hein, qui participaient au Rallye Raid, hein. Il y en avait. Je me souviens, le plus gros en nombre d'usines, il devait y avoir pas loin de 8 constructeurs moto, quoi, uniquement moto. Il y avait Gilera, il y avait. C'était
Oui, il y avait du monde.
folie, quoi. Ouais. Donc, du coup, dans chaque équipe d'usine, tu avais 3-4 motos, tu vois bien, quoi. Tu avais déjà 30-40 motos d'usine quasiment au départ de chaque rallye, quoi. C'était énorme. Donc, du coup, voilà, tu rencontres des gens, et si tu te fais un peu remarquer, que tu fais 2-3 bonnes spéciales, 2-3 bons trucs, 2-3 bons résultats, et ben voilà, les connexions se font comme ça. Et
Et
puis c'est passé comme ça.
justement, on t'a beaucoup connu aussi pour l'aspect de support pour d'autres pilotes, le fameux rôle de porteur d'eau.
Ouais, mais
Est-ce que c'est
disons
quelque
que
chose?
ça c'est ouais, vas-y, ça c'est mon premier. Donc j'avais fait quelques rallyes du Maroc, enfin le rallye du Maroc s'appelait rallye de l'Atlas à l'époque. Rallye de l'Atlas, j'avais fait les Bajas espagnols. À l'époque, c'était la Baja espagnole, c'était il y avait 1 000 km à deux pilotes et une moto, et on se faisait chacun deux relais de 250 bornes. Et donc j'avais fait une année avec Hubert Auriol, par exemple, avec qui j'étais pote et tout ça, parce que Hubert on lui fournissait en tant que enfin, de motocross marketing. On était importateur Axo pour les bottes. C'est nous qui lui fournissions les bottes Axo, par exemple. Donc il avait gagné le Dakar déjà avec BMW, avec nos bottes, etc. Donc on était déjà potes avec pas mal de gens. Et donc Hubert Auriol, pour moi, ça a été lui le déclic absolu de ma carrière de rallye africain, parce que ben, c'est avec lui que je suis allé chez Kajiva Ducati en fin 84. Et on a construit une moto parce que les gens de chez Kajiva nous avaient rencontrés justement sur une barra espagnole dans le paddock après la course. On avait mené toute la course de A à Z, et on avait cassé à 50 km de l'arrivée. Enfin bref. Et donc les gens de chez Kajiva nous viennent. C'était Roberto Azzalin, hein, qui est je sais pas si tu as entendu parler, enfin c'est le père
Oui, tout à fait.
Fabrizio Azzalini, etc. Et Roberto Azzalini et Claudio Castiglione étaient venus nous voir à l'arrivée de la barre espagnole, en nous disant, voilà, nous on rêve d'Afrique, etc. Mais on n'y connaît rien, on ne sait pas faire, etc. Ah bon, mais qu'est-ce que vous faites? Bah, on a une petite usine, voilà, Kajiva Ducati. Oh, d'accord. Et donc. Et on leur a dit, bon, bah, ok, pas de problème. Dans 2 jours, on est chez vous, quoi. Et avec Hubert, on a pris la bagnole. 2 jours après, on était là-bas, à Varèse, à l'usine. Et puis, on attaquait un projet magnifique, et la construction d'une moto à partir d'une feuille blanche. Et ça, c'était absolument extraordinaire. Et ça, c'est parce que c'est Hubert qui m'a entraîné là, parce que lui, il avait déjà 2 victoires avec BMW, 81 et 83 au Dakar. Et Hubert, c'était déjà une star au niveau du rallye raid, quoi. Et alors que moi, pas du tout. Moi, j'avais fait quelques rallyes comme ça, mais pour me barrer, quoi.
Et alors, c'est là que je dirais, le shift se fait avec le fait que tu sois pilote support ou vous partiez tous les deux
Ouais,
à
non,
armes égales?
c'est parti direct comme ça. Et c'est tout à fait logique parce que moi j'avais, bon, ok, j'avais gagné les rallyes Tunisie une fois, mais j'avais pas de résultats particuliers, j'étais pas pro puisque je bossais moi motocross marketing, etc. Et donc, pour moi, il n'était même pas pensable, même pas imaginable de me retrouver pilote professionnel d'usine à faire que ça, quoi. Et c'était pas du tout mon but. Et pour moi, mais par contre, mon rêve, c'était de faire le Dakar au moins une fois, quoi. Et là, j'ai dit, waouh, c'est trop génial, quoi. Alors, quand on a mis en place le team Kajiva et que ça s'est dessiné comme ça, c'était bien évidemment Hubert Auriol, le pilote numéro un, puisqu'il était déjà star et déjà gros palmarès. Il y avait Gianpaolo Marinoni, qui était un enduriste italien, qui était très, très connu et qui roulait très fort, et donc qui était pilote italien de maison, je dirais, entre guillemets. Et il fallait un pilote support. Et moi, j'ai dit, bah, bien sûr, quoi. Et moi, j'ai signé les deux, tu vois, les deux mains en disant, bah, voilà, mais moi, c'est mon rêve, quoi.
Ça, c'est
Et donc,
quelque
je suis
chose
parti.
que tu as toujours à assumer, hein, que ce soit sur
Ah,
deux ou
ouais,
quatre
alors,
roues, ce statut.
complètement, mais
Ouais.
moi, c'est comme ça si j'avais eu, entre guillemets, la grosse tête dès le départ, que j'avais cherché un guidon d'usine ou quoi que ce soit, j'aurais jamais trouvé, et puis j'aurais intéressé personne, tu vois ce que je veux dire.
Mais
Et
je
donc,
pense aussi c'est que
ben
parce que
bien sûr.
tu étais quelqu'un de fiable et de sur qui
Ah,
on
mais
pouvait
là,
compter au niveau du.
mais moi, je me suis trop régalé. T'imagines de te retrouver comme ça du jour au lendemain, un team d'usine avec des ingénieurs, des mécanos qui te demandent, qui te fabriquent une moto à ta taille ou quasiment, et qui va faire des essais en Afrique, et tu prends part au truc à fond, et c'est super motivant, et c'est génial, quoi. Et en plus, t'es payé pour faire ça, et en plus, tu fais ça avec ton meilleur pote, qui était Hubert Auriol à l'époque pour moi. C'était
C'est que du bonheur.
juste du rêve, quoi. Donc, bien sûr que j'acceptais de lui donner une roue s'il cassait une roue, ou bien sûr que je m'arrêtais aussi sur Marinoni s'il avait un souci, puisque c'était les deux pilotes phares. Tu vois, et ça, j'ai jamais eu le moindre remords ou le moindre regret
Regret.
de. Non, non, ça c'est clair. Bon, par contre, après, effectivement, après, c'est une image qui te colle à la peau. Bon, ok, ça c'est sûr que. Après, j'ai fait 8 Dakar en moto, tu vois, j'en ai fait 5 chez Kajiva.
Ouais, justement, il y a une jonction avec les quatre roues, donc là,
Après,
t'es
je suis
passé
parti
sur.
chez Yamaha. Après, je suis parti chez Yamaha 3 saisons, où j'ai fait 3 saisons de rallye raid avec Peter, Dany Laporte. On a eu
Ça,
Magnasi,
c'était aussi une époque
Cosmi.
dorée, ça.
C'était 90, 11, 12. 90, 11, 12. Là, pareil, je fais 3 saisons chez Yam France. Et là, c'était super, tu vois. Mais j'avais quand même toujours mon étiquette de pilote assistance rapide, tu vois. Machin. Et puis donc, effectivement, je me suis arrêté aussi pour Peter, je me suis arrêté pour, tu vois, pour deux, trois pilotes. Mais
Après, c'est pas un rôle qui est déshonorant parce
après.
dans le fait que toi, tu fais participer l'équipe à la gagne, quoi.
Ah ouais. Non, puis je suis quand même, si tu veux, j'arrivais quand même à me régaler, mais de toute façon, c'était inouï à quel point je me régalais. Et notamment, j'ai gagné pas mal de spéciales, tu vois, j'ai dû gagner une dizaine, en gros, je sais pas exactement, mais en gros, une dizaine de spéciales en moto sur le Dakar, si tu veux. Parce que, voilà, c'était des conditions qui s'y prêtaient. Bon, tu vois, une année, Peter, il abandonne, il tire sa balise, machin, clac, 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 hop. Tu vois, j'ai gagné Gao Tombouctou, j'ai gagné des trucs. Chaque fois que j'avais un petit peu ma carte à jouer ou que j'avais pas besoin de m'arrêter pour un autre pilote, tu vois, j'essayais de mettre du gros gaz. Et puis, donc
Ouais, tu
pour
roulais
moi,
pour
c'était.
toi,
Ben ouais, non, mais je roulais pour moi. Et pour moi, c'était extraordinaire parce que j'avais pas tant que ça, enfin, de pression, d'obligation de résultat, tu vois. Et j'étais pas engagé pour gagner Dakar ou pour faire un podium absolument, machin, tout ça. Mais du coup, je faisais ma course plutôt décontractée et plutôt sans trop de pression, en me disant, bon, ben bah voilà, si tu dois t'arrêter, tu t'arrêtes, et c'est le jeu. Et par contre, si tu t'arrêtes pas, et ben voilà, essaye de t'éclater. Et donc c'est pour ça que j'ai gagné quand même quelques spéciales et tout ça. Tu vois, je me suis fait super plaisir. Et puis voilà.
Et la jonction avec les voitures, alors ça se
Et
fait
ben de
comment? Et
nouveau,
ouais.
de nouveau Hubert Auriol,
Ouais.
qui quand il s'est cassé les deux chevilles, là, quand j'étais avec lui
Ouais,
chez
ouais.
Cachival
Alors,
Lucky
tout le monde
Strike.
s'en rappelle ça, ouais.
Et donc moi, lui a abandonné la moto ce jour-là et il est passé aux quatre roues et il a monté un projet avec un buggy, etc. Bon. Et moi, je lui ai dit, donc il m'a dit, viens. Donc moi, je suis allé l'aider au niveau de son écurie à monter un peu le team, etc. Par contre, je continue à rouler en moto. Parce que moi, je lui ai dit, attends, mais moi, je me régale toujours en moto, ça me va bien. Et puis j'étais chez Yam à l'époque, et puis j'ai dit, mais attends, moi, ça va. Non, j'étais encore chez Cajipal. Et donc j'ai continué à rouler en moto, moi.
Oui, parce
Par
que
contre,
justement là, ouais. D'un côté, pardon.
quand j'ai décidé d'arrêter la moto au Paris Le Cap, on avait fait Paris Le Cap qui était une course de 15 000 km en 92, et à l'arrivée au Cap où je fais 6e, je crois, au scratch, avec Yamaha, c'est Peter qui gagne, Magnaldi doit faire 3 ou 4, et moi 6, tu vois, les trois Yamaha France. Donc on avait fait une super course et tout. Mais c'est l'année où Gilles Lallez se tue. Bon, c'était une course voilà, longue
Particulière.
et particulière. Et là, je me dis, bon, allez, c'est bon, t'as fait un peu le tour du truc. Et là, j'ai dit, bon, allez, non, c'est bon, je pose la moto. Et j'ai dit à Jean-Claude Olivier, à l'arrivée au Cap, j'ai dit, écoute, voilà, c'est bon, je pose la moto et puis j'arrête. Voilà. Et puis
Mais
voilà, parce que j'avais fait le tour, quoi, tu vois.
et justement, passer d'un roadbook moto à roadbook, pardon, auto comme copilote, ça prend si vite que ça?
Non, si tu veux, j'avais la réputation en moto d'être assez bon navigateur. Bon, je me démerdais pas trop mal, j'avais le nez, tout ça, bon, voilà. Et puis voilà, et puis c'est tout. Moi, derrière la moto, j'avais zéro projet, surtout pas de rouler en voiture, parce que ça m'intéressait vraiment pas plus que ça. Moi, ma passion de base, c'est la moto, ça a toujours été, quoi. Et là, quand Hubert Auriol gagne le Paris Le Cap, lui, chez Mitsubishi. Et il signe chez Citroën. Juste après la course, après le Paris Le Cap, il signe chez Citroën. Bon. Et là, il m'appelle, il me dit, bon, écoute, allez, maintenant, ok, t'as arrêté la moto, c'est pas trop tôt, et maintenant tu viens avec moi. Bah, je dis, attends, moi, ça me branche pas, je vais être sac de sable là, assis à côté, je vais m'emmerder. Ouais, mais si, mais tu vas voir, c'est génial. Viens, on a une séance d'essai en Tunisie. Tu apprends le billet d'avion, tout machin, et tu restes 3 jours, 8 jours si tu veux avec nous, et puis tu prends ta décision après. Je dis ok, on va voir. Et là, je me retrouve dans une voiture qui était le proto Citroën de l'époque, qui faisait 450 chevaux, avec des débattements de suspension de folie, comme une moto de course, une voiture de dingue, avec mon meilleur pote qui était Hubert Auriol. Tu vois, au volant, là, je me dis, putain, c'est vraiment génial ce truc. C'était un beau jouet, c'était waouh, et on s'éclatait. Et la voiture me bluffait complètement. On passait dans les champs de cailloux à 100 à l'heure. J'en revenais pas, tu vois. Et
Ben
donc,
justement, ben.
je me suis dit là, waouh, c'est quand même sympa, quoi. Ouais. Et puis
Parce
Jean
que.
Todt, qui était patron de l'écurie, direct me fait une proposition, quoi. Et moi, j'ai dit, mais attends, j'ai jamais navigué de voiture. Moi, je suis un bleu. Mais non, mais c'est bon. Puis Hubert voulait absolument que je parte avec lui, etc. Et donc, voilà. Donc, c'est parti comme ça. Je suis parti avec Hubert. On a fait notre premier Dakar en 93. Donc, l'année qui a suivi Paris Le Cap, j'ai raté la moto. Et le Dakar suivant, j'étais dans le baquet avec Hubert Auriol dans une Citroën. Usine.
Justement, au niveau la gestion aussi des risques, donc que ce soit en moto, plutôt en moto qu'en voiture, comment ça se gère? C'est quelque chose auquel on pense chaque minute ou on inclut ça dans un coin de sa tête, on y pense et comment ça se gère ça?
Non, le
Le
risque.
facteur risque, parce que tu as eu de la chance de ne pas te blesser gravement. Donc,
Ouais, c'est clair. Mais
d'autres
le
y ont
risque,
décédé.
tu penses pas. Enfin, je veux dire, tu penses quand tu as un pote, ok, qui a un accident grave, et puis, donc le soir, c'est dur parce que tu es en spécial, en bivouac. Je veux dire, tu es en bivouac, et puis tu es là, tu dis putain, j'étais avec lui tout à l'heure, et puis. Il s'en est mis une énorme, et puis voilà, ça va pas bien, et puis t'as pas de nouvelles, et puis machin. Donc, ça, c'est dur, mais après, sincèrement, quand t'es sur la moto, et puis quand tu fais
Tu
ce
n'y penses pas.
job-là, ben non, mais t'y penses pas du tout, parce que quand tu fais ce job-là, il faut bien se dire que c'est une chance et un luxe inouï de vivre ta passion et de vivre de ta passion et de faire ce que tu aimes, tu vois ce que je veux dire? Et donc, à partir du moment où tu considères que c'est un luxe et d'avoir choisi de faire ça, bah, tu choisis de prendre des risques, ok, mais il faut les assumer et puis faut
Ça
surtout
fait partie du jeu, ouais.
faut surtout pas s'en plaindre, quoi, tu vois, ça fait vraiment partie du truc et ça m'a vraiment. Même en voiture, après, enfin, en moto, j'ai quand même pris quelques bonnes grosses boîtes, mais en voiture aussi. Hein, en voiture, on a cassé pas mal de voitures, quand même, avec Vatanen, avec quelques-uns, quoi. Mais bon,
Parce
non,
qu'aujourd'hui,
ça m'a
il y a
jamais
pas
fait
mal
trop réfléchir, quoi.
Il y a pas mal de jeunes pilotes qui se lancent en rallye moto. Est-ce que tu aurais quelques conseils à leur donner? Parce que on a vu une chute avec Mathias Beinot qui s'est
Ouais.
gravement blessé. Ça peut aller vite. Le désert, quel qu'il soit, ça s'apprend, j'imagine, ça se lit. C'est comme la mer
Ouais,
pour un
ben, c'est-à-dire
navigateur.
que ouais, ça se lit, mais si tu veux, il faut y aller avant tout avec humilité, quoi. Il faut y aller gentil, gentil. Souvent, tu vois, les problèmes qu'il y a de motards qui se cassent en rallye raid, c'est parce que déjà ils arrivent, ils sont déjà superstars quelque part en enduro ou en motocross ou un machin, tu vois. Regarde, tu vois, il y a des tas d'exemples, tu vois, de Malherbe, de pilotes absolument hors normes, extraordinaires et tout ça, qui arrivent là avec déjà une pression. On attend trop d'eux tout de suite, quoi, tu vois. Et moi, j'ai eu la chance de commencer de rentrer par la petite porte en privé, tranquille, machin, tout ça, donc j'ai pas de mérite. Parce qu'il a fallu que je tombe, que je ramasse la moto et tout ça. Seulement, je roulais à mon niveau. Je roulais pas comme un cador parce que je savais pas le faire, tu vois. Et puis j'avais pas de pression de tu vois, de la part des médias ou des journalistes ou de team, etc. Donc moi j'ai eu la chance de commencer gentiment, tu vois, en apprenant, en faisant des trucs. Et puis, si je me prenais une boîte, et ben voilà, c'était pour moi. Et puis, c'est moi qui payais les réparations après sur la moto de ma poche. Donc, tu vois, j'essayais de pas tomber et machin et tout ça, tu vois. Et là, ce que je vois surtout, c'est que tu vois, les Van Beveren, les mecs qui roulent fort, ils roulent très fort en rallye raid. Et ils sont très bons. Ils sont très bons, mais ils arrivent avec. Disons que mentalement, il faut vraiment qu'ils travaillent ça, quoi, pour arriver sans laisser les gens autour d'eux leur mettre trop la pression au fur et à mesure que la date du départ du Dakar avance, etc., tout repose sur leurs épaules, etc. Il faut
Ben justement,
vraiment.
là-dessus, il y a beaucoup disent qu'il y a un facteur qui entraîne certains pilotes à débrancher, comme en freestyle motocross, hein, au niveau du cerveau, et pour enquiller du 180 dans de la caillasse, etc. C'est quand même particulier comme approche.
Tu peux débrancher en rallye raid sur 50 bornes ou 100 bornes, mais tu peux pas débrancher sur 10 jours de course, tu vois, ou 15 jours de course. Donc ça c'est parce que ça passe pas, c'est pas possible. Donc si tu veux, moi aussi j'ai ça m'arrive de débrancher sur des étapes parce que là voilà, la moto va bien, tu te sens bien ce jour-là, tu vois, tu as un bon feeling et tout ça. OK, tu te lâches et tu OK. mais tu peux pas rouler à 100%. Alors, je ne parle pas de 110 ou 120%, mais même à 100%, tu peux pas rouler à 100% en rally raid du début à la fin. Tu montes en l'air, c'est impossible. C'est impossible parce que il y a trop d'imprévus. Tu découvres le terrain, il y a trop de pièges, il y a trop de pièges. Et donc voilà, il faut réussir à. C'est difficile, hein?
Oui,
À rouler un peu en dedans, à avoir le bon feeling,
temporiser, ouais.
à apprendre à bien lire le terrain, les couleurs de sable, etc. Il faut apprendre à regarder loin, à rouler, tu vois, et il faut apprendre aussi à rouler vite, ce qui n'est pas forcément le meilleur atout qu'ont les pilotes d'enduro, de motocross, tu vois. Quand je dis vite, tu vois, voilà, il faut pouvoir rouler à 150, tu
Et t'es
vois,
arrivé de te
c'est.
faire vraiment peur sur une section?
Oh ben
J'imagine
oui,
que
non, mais
oui,
des
ouais.
peurs, oui, non, mais des
Une grosse
peurs, tu t'en
chaleur, comme on
fais,
dit.
presque une par jour, hein, normalement. Si tu roules, quand tu roules, dès que tu roules un peu fort, à un niveau correct, tu te fais quasiment une bonne chaleur par jour. Ouais. Ouais. Non, ça, c'est sûr. Mais bon, voilà, quand tu te fais une chaleur parce que tu t'aperçois que tu as fait un truc, t'étais aux limites de
Un peu
la
au-dessus de tes
suspension
pompes,
de la
quoi.
moto ou limite de la capacité d'encaissement de la voiture. Tu vois, quand tu fais je sais pas, que tu retombes sur la roue avant gauche en voiture, tu vois, que tu es à 180, 160 ou. Enfin, que derrière, tu sais pas ce qu'il y a et machin, tout ça, tu te dis bon, ok, là, Joker.
Calmer.
Alors là, ouais, bon, bah là, tu te fais un peu peur, mais après, mais la peur, elle dure un dixième de seconde, parce que après, ça passe, mais c'est juste, il faut vraiment toujours, en rallye raid notamment, quoi, garder vraiment la tête sur les épaules, pas se laisser monter en pression. Et puis rester bien, la concentration, alors là, primordiale, primordiale. C'est-à-dire, faut s'entraîner à pouvoir rester concentré 4 ou 5 heures d'affilée, quoi. Ça,
C'est
ça
épuisant
se fait
ça.
chaud aussi, des fois, ouais. Et puis voilà, rester humble, quoi. Rester
Surtout,
humble
ouais.
par rapport au terrain. Qui, de toute façon, parce que c'est pas les concurrents le problème. C'est le terrain, en rallye raid. Les concurrents, après, tu fais le tri au bout de 5-6 jours, tu commences à regarder. Moi, je regardais jamais le classement, moi, jamais, jamais. Je regardais au bout de, je sais pas, un Mirali ou un peu avant la Mirali, des fois, mais non, je regardais pas le classement. Tu fais du mieux que tu peux, tu te concentres, tu modifies un petit peu ta moto en suspension tous les jours pour affiner des trucs. Voilà, t'es à bloc là-dessus, ça sert à rien de regarder les autres, quoi. Tu vois, chacun fait son bout de chemin et puis il faut essayer surtout d'éviter les pièges, quoi. Voilà.
Alors, à ce niveau, t'as roulé essentiellement en Afrique, hein, que ce soit sur deux ou quatre roues.
Ouais, c'est vrai.
Quel est ton avis sur l'exportation du Dakar en Amérique du Sud?
Bah déjà,
C'était
on peut.
inévitable, c'était là, oui, au niveau des
Ah
choses
ben,
terroristes.
déjà, on peut rien leur reprocher d'avoir pris cette décision-là parce que c'était inévitable. Et donc, le fait d'être parti là-bas, nous, on était super contents parce que on connaissait pas, enfin très peu. Moi, j'ai fait quelques courses là-bas, mais avant que le Dakar y aille. Mais non, on était contents de découvrir tous ces pays, quoi. Le Pérou, la Bolivie, le Chili. La cordillère des Andes et tout qu'on a traversé X fois, etc. Donc c'était non, pour nous c'était génial, c'était un beau nouveau terrain. Maintenant, j'avoue que moi je suis un peu nostalgique de l'Afrique, j'aimerais bien y retourner. Et puis bon, j'ai tout arrêté, j'ai arrêté de courir. Hein, mais c'est vrai que l'Afrique,
Il y
au
a quelque
bout
chose de particulier,
de 6-7 ans en Amérique du Sud, ouais. Je sais que j'en connais pas mal qui sont un peu comme moi, qui ont la nostalgie d'Afrique, quoi, qui aimeraient bien retourner. Alors bon, voilà. On verra, mais en attendant.
ce qui au niveau géopolitique et puis terrorisme, ça reste assez compliqué pour le moment, quoi.
Bah, ça reste compliqué, et puis donc, ouais, forcément, puisque les compagnies d'assurance doivent
Ouais,
un
ne
petit
veulent pas
peu
suivre.
doivent un petit peu tiquer, donc c'est compliqué d'organiser une grosse course. Alors, tu peux organiser, il y a des tas de petits rallyes à organiser, parce qu'un petit rallye, c'est pas trop risqué. C'est pas une cible évidente. Le Dakar, c'est une cible évidente parce que ça draine. Enfin, c'est retransmis dans 100, 160 ou 180 pays dans le monde. C'est une machine énorme, quoi, le Dakar. Et donc, avec le nombre de journalistes, de tout ça qui sont sur le terrain, etc., c'est une cible évidente. Et malheureusement, voilà, quoi. Malheureusement, voilà, c'est compliqué. Je ne voudrais pas être à la place d'ASO, quoi, des organisateurs, parce que
C'est compliqué, ouais.
la décision de repartir en Afrique, ça serait un parcours relativement simple et sécurisé. Ça veut dire, tu vois, la Mauritanie, vraiment rester sur une zone relativement proche de la mer,
Hyper
etc.
encadré,
Et
sécurisé,
voilà,
ouais.
il était encadré. Ça voudrait dire peut-être aller peut-être sur d'autres pays plus bas, hein, vers la Namibie, etc. Peut-être là, ça serait pas mal. Parce qu'on était allé en allant au Cap, là, en 92, et effectivement, en Namibie, par exemple, c'est un terrain qui se prête bien au rallye raid, quoi. Tu peux faire des belles étapes. Mais bon, ça, je sais pas, je ne suis pas organisateur. Voilà.
Aujourd'hui, tu reroules, on l'a vu, lors du rassemblement Memory Moro, sur des anciennes, donc des anciennes machines de cross. Alors, est-ce qu'on peut dire que quoi, la boucle est bouclée, du
Non,
motocross au motocross
boucle de
finalement, ou
quoi? Non, j'ai pas
boucle de
l'impression de.
vie
Voilà.
sportive sur 2 et 4 roues?
Non, mais j'ai pas l'impression de boucler quoi que ce soit. Non, mais j'ai arrêté la compétition Rally Raid là, il y a quoi? Il y a 3 ans maintenant, je crois. J'ai fait mon dernier Dakar avec Cyril Després, avec Peugeot. Et puis après, j'ai dit non, stop, stop, stop. Et voilà. Parce que voilà, j'en ai marre. J'ai fait 30 Dakar en course et voilà, j'ai plus envie de ça. Mais maintenant, je reste toujours dans le milieu, parce que je fais des missions, je trace un rallye en Chine, je fais des missions de mapman, j'écris des roadbooks, etc. Donc ça, c'est passionnant, et puis ça reste mon truc. Et puis pour le fun, je fais du motocross à l'ancienne, parce que voilà, c'est quand même ma passion, je dirais notre passion de base, mon frère et moi. Et en fait, c'est la seule discipline moto quasiment que j'ai jamais pratiquée, parce que j'ai même fait un peu de piste et tout ça, mais du motocross, j'en avais jamais fait. Et là, franchement, je me régale, quoi, parce que c'est très sympa. Et donc, je roule avec une 500 BSA, qui est une moto mythique. Et donc, je me régale, parce que je fais aussi beaucoup de mécanique et j'adore la mécanique. Parce que pour rouler sur une moto ancienne, il faut être mécanicien, sinon tu oublies.
Ouais.
Et donc voilà, non, c'est très sympa, quoi.
Et aujourd'hui, si tu devais résumer ta carrière en un mot, quel serait-il?
Oh là là.
Compliqué?
En un mot,
Passion,
passion,
envie, je sais pas.
passion, et chance. Chance, ouais, j'ai une chance inouïe de jamais m'être fait mal au point d'être obligé d'arrêter. Parce que vraiment, chaque fois que j'ai arrêté la moto, ou maintenant que j'ai arrêté la voiture, chaque fois c'était ma propre décision, quoi. Parce que j'avais toujours des propositions derrière pour continuer et continuer et continuer encore. Et donc, voilà, j'ai une chance inouïe, quoi, d'avoir réussi à vivre de ma passion de cette façon-là, quoi. Et bah voilà.
Et ben,
C'est chouette, c'est chouette. Donc je suis
j'arrive.
un homme heureux et comblé.
Bon, c'est
Ouais.
super.
Ouais, voilà.
J'arrive à ma dernière question. Si aujourd'hui tu avais 10-12 ans, tu aurais plutôt les yeux rivés vers les grands prix en mondial de motocross ou tourner vers le MX et le SX, hein, aux États-Unis? ton niveau rêve
J'avais
de
12
gamin?
ans.
Oui, si tu avais
J'avais
12
12
ans
ans. Bah,
aujourd'hui, tu
voilà. Je
regardais
suivais
les
pas
news?
les. Voilà, je suis le motocross. Je suis le motocross moderne. Je me régale de regarder un Grand Prix, tu vois, à la télé, etc. Je suis beaucoup, beaucoup moins le Supercross US. Par contre, moi, je suis un fan des États-Unis, alors c'est compliqué. Moi, je roule
Les
en
deux manquent de
pick-up
vitesse.
américain, je roule en pick-up V8, j'ai un vieux Chevrolet, moi, je suis un dingue des States, quoi. Donc, tout ce qui vient de là-bas, j'adore. Et le motocross et le SX, bien sûr, j'adore. Mais j'avoue que, bon, je suis ça de moins près, mais si j'avais 12 ans, ouais, ça serait US direct.
Ok. Bah écoute, c'était ma dernière question pour aujourd'hui.
Au plaisir, ouais.
Je te remercie vraiment du fond du cœur pour le temps que t'as bien voulu
Non, mais il n'y
m'accorder.
a pas de souci, ça me fait plaisir de parler de tout ça, tu sais.
Ouais, j'imagine bien, je me rappelle.
Et puis ça me donne l'occasion aussi tu vois, de dire que j'ai eu une. Quand je te dis j'ai eu une belle vie, c'est que j'ai eu la chance,
Oui, on peut le dire, ouais, c'est clair.
et je veux remercier en même temps, tu vois. Je remercie, tu vois, Hubert Auriol, je remercie mon frère Thierry, je remercie. Tous ces gens qui m'ont entouré, qui m'ont fait confiance, tu vois, toutes ces années-là. Parce que c'est grâce à eux aussi que j'ai fait tout ça. Et donc, voilà, je suis très reconnaissant des quelques personnes qui ont fait que ma carrière s'est orientée comme elle s'est orientée. Et même, tu vois, ayant été porteur d'eau ou seulement, entre guillemets, copilote. J'ai jamais eu de regrets ou de remords, tu vois, de pas être pilote automobile de pointe, tu vois, etc. J'ai jamais regretté de pas avoir pris un volant comme l'a fait Peter ou comme l'ont fait d'autres, tu vois. Et non, franchement, c'est ça qui est sympa aussi, c'est qu'à aujourd'hui, moi, j'ai 63 balais. Et ben, j'ai aucun remords d'aucune sorte, et voilà, et je me marre toujours à faire le con sur les terrains de crosse.
Ben, c'est énorme. Après, moi, de mon humble côté, je crois que tu as été certainement l'une de mes premières interviews. Ça remonte à maintenant bien, bien longtemps. Et je me rappelle aussi les t-shirts que tu nous avais donnés à moi, un pote de Lucky Explorer avec
Ah
du
bon, ah ouais.
Dakar. Voilà, des petits trucs, mais bon, voilà, je m'en rappelle, quoi. Il n'y a pas de souci, puisque, quoi, comme tu le sais, je suis de Nancy et j'étais à 500
Ah
mètres
oui, bien sûr.
de motocross marketing. Bah écoute,
Ouais.
encore merci pour ces moments partagés. Et puis bah écoute, on se dit à bientôt pour peut-être d'autres réactions.
Avec plaisir, Jérôme. Merci.
À
Merci.
bientôt.
Bye.
Bonne soirée.
Au
Au
revoir.
revoir.